Ce ne sont pas les rois qui célèbrent les rêves. Ce n'est que de ceux qui descendent dans le silence. Et nous bénirons l'éternel. Mais nous bénirons l'éternel. Et nous bénirons l'éternel. Et maintenant et à jamais, nous et l'éternel.
Brillez sur moi. use de sagesse, use de sérieux. Dis à tes disciples, ils sont en train de t'honorer comme si tu étais Dieu. Dis à tes disciples de se taire. Jésus leur a dit, si ils se taisent, les pierres vont crier à leur place. Et Jésus voulait expliquer aux pharisiens, leur dire, je suis glorieux, je suis le Dieu vivant. Si certains s'entêtent à ne pas le comprendre, d'autres le comprendront, et ceux-là exprimeront ma gloire. Exprimeront ma gloire. Et donc, même mes propres disciples, s'ils se mettent à paresser et à s'endormir, il y a d'autres personnes que je susciterai qui exprimeront ma gloire. Et nous avions dit à la première séance que Dieu nous a créés afin qu'on soit l'expression de sa gloire comme les fruits, hein, de. Les fruits et les fleurs de certains arbres sont l'expression de la valeur de l'arbre. Il y a des plantes qu'on appelle les mauvaises herbes, donc qui ne servent à rien parce qu'elles n'ont pas de fruits, elles n'ont pas de fleurs vraiment belles. Et la valeur d'un arbre se mesure à ses fruits et à la beauté de ses fleurs. Donc, et Dieu étant grand, il s'est exprimé à travers les étoiles, la lune, à travers les planètes, à travers les galaxies, à travers la mer, à travers les plantes, les fleurs, la multiplicité des animaux. Mais mieux encore, il s'est exprimé à travers l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc l'homme est la créature choisie par Dieu pour exprimer le plus sa grandeur. Et l'homme le fait, hein, plus ou moins, puisque il arrive à créer des appareils, il arrive à inventer des choses. Il montre qu'il vient de quelqu'un qui est tout puissant, qui est très intelligent. Et maintenant, plus que cela, ce que Dieu veut pour chaque homme, c'est que chaque homme lui appartienne comme la fleur ne vit qu'attachée à l'arbre, comme le fruit ne peut mûrir, ne peut recevoir les vraies vitamines attachées à l'arbre. De cette manière-là, l'homme attaché à Dieu peut produire vraiment la gloire de Dieu, afin que cette gloire-là soit pure et grande dans l'univers. Et on avait expliqué que c'était possible que par la nouvelle naissance. Premièrement, il fallait naître de nouveau, il fallait que nous venions à Dieu qui nous donne une nouvelle vie, parce que la vie ancienne, remplie de péchés, ne peut pas vraiment glorifier Dieu. Il faut que Dieu nous donne une nouvelle vie qui sera dirigée par lui. C'est ce qu'il explique dans Jean au chapitre 3. La nouvelle vie, c'est comme le vent. Il souffle, tu ne sais ni où il va, ni d'où il vient. C'est ça qu'un homme est né, quand un homme naît de nouveau, il est saisi par Dieu, récupéré par Dieu, et Dieu l'amène là où Dieu veut, pour la gloire de Dieu et pour le bien de cet homme-là, de cette femme-là. C'est ça, c'est comme ça qu'un homme peut vraiment exprimer la gloire de Dieu. Et Jésus a été un exemple pour nous, il a exprimé la gloire de Dieu. Et en deuxième séance, nous avions parlé du fait que on ne peut exprimer vraiment la gloire de Dieu qu'en le servant, en vivant pleinement la mission pour laquelle Dieu nous a laissés sur terre. Donc il faut servir Dieu, c'est dans ce service-là. Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des biens, il nous a donné des dons, il nous a donné des équipements. Et quand ces choses-là ne servent pas pour sa gloire, ils finissent par pourrir, elles finissent par pourrir, elles finissent par se détériorer et nous faire à nous-mêmes du mal. Elles ont le sens que lorsqu'elles servent pour la gloire de Dieu, et que dans ce service-là, il y a des risques à prendre. Sans risque, il n'y a pas de gloire. Même dans le monde, on dit que qui ne risque rien n'a rien. Donc avec Dieu, la foi doit s'exprimer. On doit exprimer notre foi en mettant à 100% les talents et les richesses qu'il nous a données et l'intelligence qu'il nous a donnée à son service. C'est ainsi que Dieu peut sublimer ce qu'il nous a donné Alors que si nous utilisons tout cela égoïstement, ça devient comme une zone de pourriture qui va nous étouffer tôt ou tard. Mais quand nous mettons nos talents au service de Dieu, Dieu les sublime et elles deviennent des marques éternelles. À jamais, ces choses-là brilleront, alors que si nous nous en servons égoïstement, elles peuvent nous donner une certaine gloriole, une certaine petite gloire terrestre, mais ça ne restera que pendant un temps. Mais quand on sert Dieu, les œuvres sont éternelles et c'est ce que Dieu veut faire. Et Dieu sublime nos actes quand ils servent pour sa gloire. Donc là, nous allons lire une parabole. Mais nous avions dit aussi que c'était un avertissement ce qu'on donnait parce que Jésus disait, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Donc on va lire dans Matthieu 22. Donc, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Donc, si nous, nous négligeons de servir à la gloire de Dieu, il va se trouver d'autres personnes. Il va en produire d'autres personnes qui vont le faire. Même s'il le faut, il va utiliser des pierres. Nous lisons dans Matthieu 22 ce qu'on appelle la parabole des invités. Matthieu 22, ou la parabole des non-sens. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, donc, je tenais dans le ténèbre du dehors. Ça nous rappelle la première parabole que nous avons lue, la parabole des talents dans Matthieu 25, c'est pareil. Donc, le serviteur a été blâmé de n'avoir pas utilisé les talents qu'on lui avait donnés par le roi. Et là, le roi fait une fête. Il fait une fête et il invite les gens. Ses proches. Donc il envoie des gens pour leur dire, venez, c'est l'heure de la fête. Mais chacun décline l'invitation en disant, voilà, il est écrit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et il y a des gens qui ont dit, voilà. Il y a des gens qui ont dit sûrement, dit, non, moi j'ai une fête ailleurs, je me suis déjà engagé. D'autres ont sûrement dit, non, mais j'ai laissé mes bœufs quelque part. Ils ont négligé la grande invitation du roi. Certainement, c'était parce qu'ils s'étaient finalement habitués à ce roi-là, parce qu'il était devenu leur proche. Cette parabole est un avertissement à tous ceux qui ont une vision rétrécie des choses de Dieu. Donc des gens qui ont une vision religieuse qui consiste à recevoir comme un ticket pour le ciel. Mais entre-temps, il n'y a pas la plénitude de Dieu dans leur vie. Ces gens-là connaissaient le roi, mais n'ont jamais cherché à le connaître en profondeur. Ils ont juste eu une relation superficielle avec lui. De sorte que quand il les invite d'une manière sérieuse pour une grande fête, ils négligent parce qu'ils se sont finalement habitués à lui. C'est ainsi que beaucoup de gens sont dans les milieux qu'on appelle église. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais sans vraiment connaître Dieu. Et c'est pourquoi quand Dieu avertit, dit des choses dans sa parole, il néglige, il sous-estime ce que Dieu dit. Et c'est à cause de ça qu'un jour ils vont se retrouver dans les ténèbres du dehors. Ils ont une vision rétrécie de Dieu, une vision terrestre. Dieu est celui qui me protège pour que je me réveille demain matin. Dieu est celui qui peut me donner un mariage. Dieu est celui qui protège mes enfants. Dieu est celui qui me protège quand je prends l'avion. C'est une vision petite de Dieu, liée aux contingences de la terre. Mais Dieu est grand, il est tout puissant, il est éternel. Il a prévu un endroit qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, le paradis pour nous, une éternité au ciel dans le paradis. Il est grand. Et quand on a une vision rétrécie de Dieu, on finira par négliger la grande invitation qu'il nous fait parce que nous, on a une vision petite. Ces gens-là avaient une vision petite du roi. C'est une vision, ah bon, il administre le pays. Mais ils n'avaient pas la grande vision du roi qui était le souverain du pays, qui pouvait décider de vie et de mort. Ils négligeaient ça. Ils devaient avoir l'habitude d'aller chez le roi. Et ils ont sous-estimé le fait qu'il était vraiment le roi et qu'il pouvait tuer tout le monde, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il avait l'armée pour ça. Ce qui fait que quand le roi fait une grande invitation, habitué au roi, il néglige. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont habitués avec le nom de Dieu. Ils sont habitués. C'est devenu de la routine. Il n'y a pas la profondeur. Et ils finissent par sous-estimer ce que Dieu a dit dans sa parole. Quand Dieu dit, attention à ceci. Quand Dieu dit, je reviens bientôt. Voici les signes qui précéderont ma venue. Dieu explique tout ça dans sa parole. Dieu nous prévient des dangers du péché. Les gens finissent par devenir insensible à tout cela, anesthésié par la routine. Et ce qui fait que le Seigneur revient bientôt, beaucoup seront surpris. Parce qu'ils ont oublié qu'il y a une éternité. Ils ont oublié qu'il y aura une fin du monde. Tout ça, c'est des choses que Dieu a placées dans sa parole. Ils disent qu'ils sont de Dieu. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ce Dieu-là, dont il se revendique, a dit des choses, a prévu l'avenir, il a dressé cet avenir dans sa parole. Et toutes ces personnes-là, qui sont aujourd'hui invitées par Dieu, comment sont-ils invités? Mais la parole invite tout le monde. C'est pourquoi cette parole finit par « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Tout le monde est invité, et beaucoup sont plus ou moins au courant. Mais ils ont une vision rétrécie. Et leurs occupations de tous les jours vont finir par leur couper la relation avec Dieu. Ils sont pris par les occupations de tous les jours. Quand Dieu maintenant fait l'invitation, il y a toutes sortes de raisons. J'ai telle activité, je dois faire du tennis dans tel endroit. Je me suis engagé pour telle chose. Quand Dieu les invite, ils négligent. En fait, Dieu est devenu leur porte. Il est devenu comme une sorte de talisman qu'on met dans la poche, qu'on utilise quand on a besoin. Il n'y a pas la profondeur. Ce qui fait que le jour où Dieu fait l'invitation solennelle, l'invitation vitale, donc si tu ne viens pas, tu es fini, ils vont négliger ce jour-là. Et ce jour-là approche. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Il dit, attention, branchez-vous à la vision céleste. Attention, nous allons lire même, c'est écrit dans Luc 21, 34. Luc 21, 34. Luc 21, 34. Luc 21, verset 34, il est écrit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voilà ce qui est dit. Attention! Que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la terre, sur la surface de toute la terre. Voilà, Jésus nous avertit qu'il revient. Et ce jour tombera comme un filet. Vous savez, les poissons, le filet tombe sur eux. Au moins, quand... c'est l'hameçon, le poisson voit quand même l'appât à l'avance. Et s'il est intelligent, il peut l'éviter. Mais le filet, il tombe sur toi. Tu es surpris. C'est ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, les gens vivent comme si tout se réduit à la terre. Ils n'ont plus la vision céleste, la vision de l'éternité. Pourtant, on a tant d'exemples de vies glorieuses qui ont mal tourné déjà sur la terre et qui sont finies, qui sont passées. Mohamed Ali, à 43 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai 36 ans. Mohamed Ali, à 43 ans, avait déjà Parkinson. Vous imaginez, quelqu'un de plus jeune que moi, il a déjà Parkinson. Donc cette vie pour laquelle il s'est consacré a déjà mal tourné sur terre. Et puis un jour il meurt. Michael Jackson, il a fini où? On a tant d'exemples de gens glorieux. Einstein, tous ces gens-là, même des gens qui ont travaillé dans de bonnes choses. Pasteur ou je ne sais qui. Mais c'est des gens qui sont morts. Mais l'homme continue à tourner ses regards sur les choses de la terre. Et pire encore, même le chrétien a oublié la vision céleste. Il a oublié la vision de la fin du monde, du retour du Seigneur, et il se laisse appesantir par les soucis de la vie d'aujourd'hui. Le chrétien, au lieu de se spécialiser dans la parole de Dieu pour évangéliser, pour amener les gens à Dieu, pour amener les gens dans le royaume de Dieu, les amener au ciel, il se spécialise dans les choses de la terre qui lui font perdre beaucoup de temps. Je ne suis pas contre le fait que on soit obligé de manger, on est obligé de se vêtir, on est obligé de travailler, d'accord. Mais on ne doit pas se laisser apesantir par tout ça. Nous devons garder la vision céleste, la vision du retour du Seigneur. Et cela n'est possible que lorsque chaque jour, nous nous rappelons cette vision-là. C'est ce que le Seigneur dit dans le verset 37. Dans le verset 6, 36 plutôt. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc nous sommes appelés chaque jour que nous voyons les étoiles. Moi, c'est ça qui me réveille chaque jour quand je me dis, mais il y a 100 milliards d'étoiles. Donc chaque jour, quand je les vois, je dis, mais Dieu existe. C'est curieux qu'un chrétien encore se dise Dieu existe, mais c'est vrai. Parce que la pression des choses de la terre peut tellement nous amener à nous concentrer sur nos petits bobos, à nous concentrer sur nos problèmes, à nous concentrer sur nos besoins immédiats, qu'on néglige l'éternité de Dieu, la présence de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 11, 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. C'est comme une contradiction, mais comment quelqu'un qui s'approche de Dieu ne peut-il pas croire qu'il existe? Mais si on peut s'approcher de Dieu d'une manière vague, d'une manière légère. C'est pourquoi ce verset dit, dans Hébreux 11, 6, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc C'est quelque chose de fondamental où il croit tellement qu'il existe qu'il y a une implication. Donc il va bâtir sa vie en fonction de Dieu. Et c'est une telle vie, chaque jour qui va glorifier Dieu, une vie qui est connectée aux échéances éternelles. C'est cette vie-là qui va glorifier Dieu. Ce n'est pas une vie qui se déconnecte par rapport aux échéances éternelles, qui attend juste la réunion du dimanche ou la réunion du mardi ou je ne sais quelle réunion pour se reconnecter à nouveau. Non, c'est une vie tous les jours connectée à l'éternité. Tu regardes la perfection de la nature, ça te rappelle. Mais oui, il y a un paradis qui nous attend. Là, il y aura, parce que sur la terre, malgré les beaux paysages, il y a aussi les maladies, il y a les guerres, il y a les viols, il y a les cambriolages, il y a plein de mauvaises choses. Mais il y a un endroit où il y aura et les beaux paysages, et la belle nature, et la présence de Dieu, et il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. Et Dieu veut que nous bâtissions notre vie en fonction de cette échéance-là à venir, et non pas nous laisser appesantir par les contraintes, par les soucis de la vie terrestre. Même si nous sommes appelés à remplir nos engagements de parents, à remplir nos engagements de père de famille, de mère de famille, à remplir nos engagements de travailleurs, là où nous travaillons, mais nous devons bâtir nos vies malgré tout par rapport à l'échéance à venir. Et ce qui n'est possible que lorsque chaque jour nous nous rappelons que le Seigneur revient, nous nous rappelons que notre vie doit servir à sa gloire. Chaque jour, quand tu vas au travail, tu dis, Seigneur, je veux que les gens par moi te connaissent. De la même manière que quand quelqu'un regarde un tableau de Picasso, il sait à peu près que c'est Picasso. Parce qu'il connaît comment le monsieur est fort dans ses réalisations. Donc, de la même manière, nous sommes les productions de Dieu. Non seulement les productions de Dieu, parce que toute l'humanité est la production de Dieu, tout l'univers, mais nous sommes les sauvés de Dieu, les gens qui sont proches de lui. Et donc, lorsque nous allons quelque part, nous sommes le contact entre Dieu et les autres. Notre vie doit servir à cette gloire-là qu'elle se manifeste. Parce que les gens regardent la terre, les étoiles chaque jour, la nature chaque jour, mais cela n'a pas suffi à les amener vers Dieu. Il ne reste plus que nous. Que notre vie glorifie Dieu, afin que par nous, Dieu les amène à lui pour être sauvés. Nous n'allons pas quand même vivre l'éternité seuls. Nous devons viser à ce que d'autres aussi intègrent l'éternité au paradis. Et pour cela, nos vies doivent glorifier Dieu. Nous ne devons pas nous laisser appesantir. Nous devons avoir une vision céleste. Vous savez, le roi David, quand il a fini son palais, c'était un roi. Quand on finit de construire son palais, quand il a vu son palais, quand il est entré dedans, il a été pris de tristesse. Son âme était abattue. Il s'est dit, moi qui ne suis qu'un humain, j'habite un palais aussi somptueux. Alors que la maison de l'Éternel, à l'époque la maison de l'Éternel, c'était une tente là où les prêtres allaient faire des sacrifices pour Dieu. Il dit, la maison de Dieu est une tente. Et moi j'habite une maison solide faite de pierre et de bois, alors que la maison de Dieu est en tissu. Automatiquement, il a mis dans le cœur le projet de bâtir à Dieu un temple plus beau que sa maison à lui. Vous voyez quelqu'un qui était connecté à Dieu, connecté au ciel. Il savait que sa maison à lui n'était que temporaire. Il savait qu'il mourra un jour. Sa vie, pendant qu'il était vivant, devait servir à glorifier Dieu et non à se glorifier lui-même par une belle maison. Il était roi, c'est normal qu'il ait un palais. Mais il s'est dit, Dieu doit avoir mieux. Dieu doit avoir la priorité. Parce que mon éternité, je la passerai avec lui. Dieu, c'est celui qui m'a donné même la royauté. C'est lui qui m'a fait roi. Comment je peux lui être supérieur en quoi que ce soit? Jamais. Il doit avoir la priorité en tout. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il ne nous dit pas qu'on doit, on doit pas avoir des voitures ni de maisons. Il dit tout simplement, ne vous laissez pas apesantir par tout ça. Vous devez garder la vision céleste, la vision de Dieu, la vision de l'éternité. Vous êtes ici sur terre pour glorifier Dieu, pour être utilisé par Dieu, afin que les gens voient que Dieu est grand. Parce que la nature n'a pas suffi à leur faire voir cela. Maintenant, il ne reste plus que nous pour faire voir aux gens, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu existe, qu'il est bon, qu'il les aime, qu'il veut les sauver, qu'il veut les amener au ciel. Et que celui qui a tout créé, il est tout puissant. C'est nous qui devons faire voir cela. C'est nous qui devons glorifier Dieu et les gens sauront que Dieu est grand et amour. Mais beaucoup se laissent aller et reçoivent le poids des soucis de la terre et étouffent leur foi et ils deviennent stériles. Et le jour de la grande invitation, ils ne seront pas là. Ils négligent l'invitation. Non seulement l'invitation finale de Dieu, mais l'invitation journalière, quotidienne de Dieu. Ils négligent cela parce que chaque jour, Dieu nous invite à marcher avec lui, à vivre avec lui. C'est ce que mon ami David dit dans Psaume 23. J'habiterai tout chaque jour dans la maison de Dieu. Pourtant, c'était un roi. Il n'allait pas tous les jours au temple, mais il disait, c'est mon souhait d'habiter tous les jours dans la maison de Dieu. Et donc, finalement, il compensait par la présence spirituelle de Dieu. Quand il dit « j'habiterai toujours dans la maison de Dieu », c'était « je resterai toujours dans sa présence ». C'est l'invitation de Dieu. Chaque jour, on ne peut pas garder en esprit l'invitation finale si on néglige l'invitation quotidienne. C'est ce que cette parabole veut nous inciter à comprendre. Si tu négliges l'invitation quotidienne, si tu négliges le sérieux quotidien, la connexion quotidienne, le but pour lequel Dieu te fait vivre quotidiennement, le jour de la grande invitation, tu seras aussi distrait. C'est ce que Jésus dit, ça te prendra comme un filet, parce que chaque jour, tu t'es laissé aller à la négligence, à la distraction. Tu t'es laissé étouffer par les choses de la terre. C'est un appel à nous ressaisir, à retrouver une vraie relation avec Dieu. C'est pourquoi Hébreux 11:6 dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Conclusion, bien-aimé. Un vrai chrétien doit vivre la dimension céleste. Il ne peut pas être là, se contenter du fait que il a de quoi manger, il a une maison, il a une voiture, il a un bon travail. Non. Puisque tout ça va passer. Un vrai chrétien doit avoir le souci souvent. Dis-moi, c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais pourquoi les gens ne le reconnaissent pas? Ça doit être le souci du chrétien. Un chrétien doit avoir le souci suivant, mais c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Qu'est-ce que je fais à me vautrer dans un tel passe-temps, alors que je devrais passer ce temps-là à glorifier Dieu, à lui dire merci, à servir à sa gloire. Un chrétien véritable doit se soucier chaque jour de Dieu. C'est ainsi qu'était David. Dès qu'il a eu sa maison, il s'est dit, mais comment je peux avoir une belle maison comme ça? Et Dieu, voilà, il ne pensait qu'à Dieu. Un jour, David, alors qu'il était en position difficile, poursuivi par Saül pour le tuer, il s'est retrouvé loin. David était natif de Bethléem. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de... Ça s'appelle la Lyonnaise des eaux. Hein. À l'époque, les gens buvaient de l'eau des citernes. C'était des grandes excavations, des grands trous qu'on faisait, et on gardait de l'eau là, dans les citernes. Et en fonction des régions, l'eau n'avait pas le même goût parce que les citernes n'étaient pas faites de la même manière. Et David, loin de Bethléem, il a exprimé un désir. Il a dit, oh, si je pouvais boire l'eau qui vient de l'eau qui vient de la citerne de Bethléem. Et ces soldats, ces combattants ont entendu les désirs de leur chef. Ils ont dit, on va lui faire la surprise, on va aller lui chercher cette eau-là. Pour aller trouver cette eau, il fallait qu'il traverse le camp ennemi. Ils ont traversé le camp ennemi, ils ont pris de l'eau de la citerne de Bethléem, ils ont fait le sens retour en retraversant le camp ennemi. Et ils arrivent, ils disent, chef, on t'a ramené de l'eau de la citerne de Bethléem. David, qui était tellement content de boire cette eau, quand il a entendu l'histoire de ces gens-là qui ont traversé, aller-retour le camp ennemi pour lui apporter de l'eau, il a dit, je ne mérite pas ça. Ça, c'est un sacrifice qu'on peut faire à Dieu seul. Ces gens-là, ils étaient à trois. Ils ont risqué leur vie pour m'amener cette eau. C'est pas à moi. Il a pris cette eau, il ne l'a pas bu, il l'a renversé par terre en signe de sacrifice à Dieu. Il a dit, seul Dieu mérite un tel honneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des prétendus pasteurs, des prétendus hommes de Dieu qui prennent l'honneur de Dieu. Les gens se prosternent devant eux. Les gens mettent leurs photos dans leur maison. Les gens, mais ils prennent la gloire de Dieu. Ces gens-là sont déconnectés. Ils ne sont plus avec Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas prendre la gloire de Dieu. Quand les gens vont essayer de l'élever, il va dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qu'il faut élever. Et là, David dit, ce n'est pas pour moi. Un tel sacrifice est pour Dieu. La priorité dans la vie de David, c'était Dieu. C'était Dieu. David, chassé du pouvoir par son fils, il était en train de fuir avec plus de 1000 de ses sujets. Et il avait ses soldats, ses braves guerriers avec lui. Et un seul homme qui s'appelle Shimei, un seul homme, il était seul. Il rencontre David en chemin avec toute son armée. Il commence à injurier David. Tu vois, Dieu t'a puni. Tu es chassé du pouvoir. Tu n'es qu'un meurtrier, un mauvais. Il injurie David, il lui balance même la poussière. Et les soldats de David disent à David, laisse-nous le tuer. Qu'est-ce que ce chien-là devant toi? David leur dit, laissez-le tranquille, m'injurier. S'il m'insulte, c'est Dieu qui l'autorise à faire ça. Je vais m'attrister de cela. Et Dieu, dans sa bonté, quand il me verra triste, peut-être me redonnera-t-il ma royauté, la royauté. Et c'est ce qui s'est passé. David n'a pas touché à cet homme-là. Il est resté triste. Et dans sa tristesse, Dieu lui a redonné la royauté. C'est-à-dire, David était conscient que la gloire ne vient que de Dieu seul. Que cet homme l'injurie, ça ne change pas la puissance de Dieu qui pouvait le relever à nouveau. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne cherche pas ce que les hommes le félicitent. Un vrai chrétien ne cherche pas ce que les hommes l'applaudissent. Mais il veut être agréable à Dieu. Et il sait que Dieu a la capacité de le mettre au-dessus. Il fait confiance à Dieu. Hébreux 11:6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et donc ça changera son comportement. Il ne répondra pas au mal par le mal. Parce qu'il sait que Dieu peut s'occuper de le défendre. Il répondra au mal par le bien. Parce qu'il sait que Dieu lui rendra justice. Parce qu'il croit qu'il existe. Si tu crois que Dieu a fait les cieux, la terre, il a fait les molécules, ton comportement va être conséquent. C'est ce qu'a dit le centenier romain. Un centenier, il envoie des gens voir Jésus. Lui, c'était un romain. Les juifs, il savait que les juifs, dans leur coutume, ils n'avaient pas à être ensemble avec les... d'aller dans la maison des non-juifs. Et il envoie des gens, des anciens des juifs, voir Jésus pour lui dire, écoute, j'ai un serviteur que j'aime beaucoup, qui est très malade. Est-ce que tu peux venir le guérir? Et les anciens des Juifs supplient Jésus, disent à Jésus, cet homme fait beaucoup pour la nation juive. Il nous a même bâti une synagogue. Va, s'il te plaît, guérir son serviteur. Et Jésus, sur le chemin, reçoit encore d'autres personnes envoyées par le même centenier romain pour lui dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi. Parce que moi, je donne les ordres à mes soldats, ils obéissent. Je dis à celui-ci, va là-bas, il va. À l'autre, fais ceci, il le fait. Mais toi, Seigneur, pourquoi tu as besoin de venir jusqu'à chez moi? Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, même en Israël, c'est ça, bien-aimé, je sais que c'est l'avertissement que je suis en train de donner. C'est-à-dire, si nous, qui nous prétendons chrétiens, nous ne voulons pas vivre par la foi, Dieu va susciter de nouvelles personnes qui, elles, vont comprendre que Dieu est grand. Et elles vivront par la foi, elles feront des exploits avec le Seigneur. Et Jésus dit, même en Israël, où les gens sont censés connaître Dieu, je n'ai pas vu une telle foi. Donc cet homme était en train d'exprimer le fait que Jésus était le Créateur. Parce qu'il dit, dis seulement une parole. Comme moi je donne les ordres aux soldats, ils obéissent. Toi tu peux donner des ordres aux molécules, aux microbes, qui embêtent mon serviteur malade. Ils vont t'obéir et il va être guéri. À distance, tu peux le faire parce que c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et Jésus dit, je n'ai pas vu même en Israël une telle foi. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme tout le monde, des gens qui ont juste un vêtement de chrétien, mais une vie d'humain normal. Non. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus le fait de glorifier Dieu par la foi. Où tu comptes sur lui pour la solution de tes problèmes, même si tu dois faire ta part en tant qu'humain, les gens ne comptent plus sur Dieu et ils ne glorifient plus Dieu parce que on voit bien dans leur vie qu'ils ne comptent plus sur lui. Et ce centenier a glorifié Dieu. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Effectivement, Jésus a dit à ces gens, c'est réglé. Il est guéri. Et quand ils sont partis là-bas, ils l'ont trouvé guéri. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, il veut nous interpeller. Revenons à lui pour le servir à 100% par la foi. Nous devons faire attention. Nous sommes invités aux noces de l'agneau. Restons connectés aux échéances éternelles. Restons connectés à l'éternité. Et cela ne sera possible qu'en étant connectés chaque jour. Pas seulement dans des moments spéciaux, mais chaque jour que nos vies soient en relation avec l'échéance éternelle. Chaque jour que nous soyons en préparation de l'éternité. Jésus ne viendra prendre que ceux qui se préparent pour cette éternité-là. Et les autres qui continueront à mener leur vie comme tout le monde, dans la distraction, ne saisiront pas quand la grande invitation viendra. Ne soyons pas de ceux-là qui pleureront et il y aura des grincements de dents, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Que nous puissions écouter la voix du Seigneur, que nous vivions comme David, pour Dieu, en donnant Dieu la priorité. Et comme David, dans Psaume 23, que chaque jour, Dieu soit notre maison, que chaque jour, nous soyons connectés à Dieu pour glorifier son nom, pour vivre pour lui. Et non pas nous laisser appesantir par les pressions, les contraintes et les occupations de ce monde. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous prions que tu nous aides à revenir à toi, à revivre en citoyen du ciel. Car nous avons été sauvés pour vivre au ciel. Et si tu nous as laissés sur terre, c'est parce que tu as une mission pour nous, celle d'être des instruments sublimés par ta gloire, afin que les autres voient que tu es Dieu, tu les aimes, tu es tout puissant, et tu as aussi préparé un jugement éternel. Tu as aussi préparé un lieu de félicité éternelle pour ceux qui croiront. Et ceux qui ne croiront pas souffriront en enfer. Seigneur, nous voulons vivre nos vies pour glorifier ton nom. Nous nous attendons à toi. Nous voulons faire moins que les fleurs qui glorifient les arbres. Nous voulons faire mieux que ces fleurs parce que toi, tu nous as créés à ton image. Que nous soyons connectés chaque jour à l'invitation que tu nous fais, à l'invitation finale et à l'invitation quotidienne. Ainsi, nous serons prêts le jour de l'invitation finale. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Merci.